ce 30 secondes de pub-là, ça pourrait être ton 30 secondes pour plugger ton commerce, ton resto, ton commerce de chasse et pêche, ta quincaillerie, whatever ce que tu veux plugger dans le podcast. C'est un 30 secondes qui est à toi. Un podcast qui est au-dessus de 6000 auditeurs différents chaque semaine, des milliers d'abonnés sur Spotify. C'est facile de faire une publicité qui rapporte. Écris-nous au contenu à commercial votreconseiller.net pour avoir les tarifs, puis la pub est à toi. Hey, bon show, là.
Bienvenue dans ton Yann et Frank. Marchand, dehors. Valérie Plante, dehors. Ça va faire, là. Les Québécois sont tannés. Ouais, il y a des sondages qui sortent, ces municipalités, puis ça va pas bien. Ça va pas bien pour nos vendeurs de rêves communistes. Ouais, faut que j'ajuste ouais. Mes imitations slapshot un peu. Là.
C'est pas grave. C'est pas facile de faire des imitations. Ça finit par pogner à un moment donné. Mais,
je pense que j'ai pas ton talent, Frank, malheureusement.
Ouais, c'est ça. Ça prend quand même une couple d'années de pratique des fois là, pour en venir à ça. Écoute, dans la section des absurdes, parce que là, c'est même on est passé le degré de la vie. Hier, j'aurais pu prendre 3-4 candidats différents. Finalement, on a choisi un cas en particulier. Là. Mais écoute, la victime du jour, man, c'est même pas une personne comme telle. Là. Mais c'est débile. Ça a été envoyé hier par je sais plus qui dans notre conversation de groupe. Mais ça n'a pas de crise de sens, cette affaire-là. C'est juste ridicule. C'est ridicule. Là. Des oiseaux jugés offensants vont être changés de nom au Canada et aux États-Unis. Et là, c'est un article du média neutre et indépendant, c'est ça que j'aime, là. Radio-Canada. Une chance qu'ils sont là, pareil, pour nous informer. Des espèces d'oiseaux qui portent les noms de personnes au Canada et aux États-Unis vont recevoir de nouveaux noms basés sur leur habitat et leurs caractéristiques, a annoncé la Société américaine d'ornithologie. Man. C'est quoi cette cochonnerie-là? Après des années de controverses, l'organisme renommé.
Controverse, oh ouais. Ça faisait une nouvelle.
L'organisme renommera les espèces d'oiseaux relevant de sa juridiction géographique et ayant un nom humain, y compris ceux liés à des personnes ayant un passé raciste.
Ah, des oiseaux esclavagistes.
Les conventions d'appellation prônant l'exclusion, élaborées dans les années 1800 et empreintes de racisme et de misogynie, ne nous conviennent plus aujourd'hui, indique la présidente directrice générale de l'AOS, Judith Scarl, dans un communiqué. En Amérique du Nord, de nombreux oiseaux portent encore des noms de personnalités. Le plus souvent, ce sont des scientifiques qui ont découvert l'espèce lors des siècles précédents. Ou par exemple, la bécassine de Wilson, nommée d'après le naturaliste du 19e siècle, Alexander Wilson. Le puffin d'Audubon, un oiseau de mer nommé d'après John James Audubon, qui recevra également un nouveau nom. Et là, ça a l'air que ces gens-là, là, c'est... faut changer le nom des oiseaux, hein, ça fait de la peine à du monde. Les ornithologues sont depuis longtemps aux prises avec des pratiques historiques et contemporaines qui contribuent à l'exclusion des Noirs, des Autochtones et des autres personnes de couleur, man.
Caroline, man, les ornithologues sont donc ben trash. Je savais pas que c'était des crosseurs comme ça, moi, des ornithologues.
Le nom... OK, check bien celle-là. En 2020, l'organisme a renommé le bruant de McCoyne, une des espèces présentes dans le sud de l'Alberta, en bruant à collier gris, soit Thick-Bill Longspur en anglais. Le nom d'origine de l'oiseau, donné en l'honneur de John P. McCaw, un naturaliste amateur devenu général de l'armée confédérée pendant la guerre de sécession, était perçu comme un lien douteux avec l'esclavage et le racisme. Ils sont malades mentales. Les noms d'oiseaux.
Ah, mais okay, ça veut dire qu'il n'y a plus de limite. Là. Ils vont refaire l'histoire au complet. On essaie d'effacer du monde.
Ben, dans pas long, tu vas ouvrir des livres d'histoire et ça va dire la théorie de l'évolution. Puis la référence à Darwin va être enlevée. On a appris que Darwin, tu sais, maintenant, il y avait déjà 10 femmes, ta gueule.
Mais c'est quoi qui me fait rire dans tout ça?
Enlever la référence à son nom.
C'est quoi qui me fait rire, Frank? C'est que ces gens-là, là, ils font partie de la haute classe intellectuelle de la société.
Oui, oui.
Ça veut dire que s'ils avaient vécu dans les années 1700-1800, ils auraient été propriétaires d'esclaves dans ces endroits-là.
Oh non, nous, là...
Non, ouais. La réalité, c'est ça, c'est que les gens qui faisaient partie de la haute, à cette époque-là, c'est eux qui possédaient les esclaves. Puis votre idée ou votre grille d'analyse contemporaine de cette histoire-là vous détraque un peu l'esprit. La réalité, c'est que si vous aviez fait partie de la haute, vous aussi, puis vous en faites partie aujourd'hui, en 2023, mais si vous aviez fait partie de la même caste de la société en 1800, vous auriez été propriétaire d'esclaves, vous aussi. Pas être plate,
ben,
là.
Mais... Ben, ça, puis moi, ce qui me fait rire là-dedans, c'est que, excuse-moi, mais c'est eux qui l'apprennent à 99% du monde qu'il y a un lien entre les deux. T'sais, si vous aviez... T'sais, dans le fond, personne ne sait ça. Est-ce que tu savais, toi, qu'il y a un oiseau quelque part? D'un, la majorité des gens ne savent aucunement les noms des oiseaux. Fait que déjà en partant, et la petite minorité des gens qui savent que, hey, oui, cet oiseau-là, ça s'appelle un McBound, pas tant de choses, OK? Est-ce qu'ils savent que le nom a été donné en l'honneur d'un gars qu'en 1800, je sais pas quoi, il s'est joint à l'armée sécessionniste? Mais personne ne sait ça. Dans le fond, ils viennent, tu sais, c'est comme s'ils effacent de quoi, mais en voulant l'effacer, c'est là qu'ils viennent de l'apprendre à tout le monde.
Ouais, mais. Mais tu sais, je veux dire, effacer l'histoire, c'est tellement de mauvaises idées. De toutes les mauvaises idées gauchistes, c'est une des pires, je trouve.
Ah, oh, c'est une des plus débiles.
On n'avance pas avec ça. Je veux dire, c'est important de connaître notre passé. Ah, puis, on n'a même pas besoin de tout refaire la liste. Je veux dire, c'est vraiment l'idée la plus cave qu'ils ont de leur côté. Tu sais, il n'y a personne qui vénère des esclavagistes. Il n'y a personne qui est là, ah oui, lui, c'était vraiment une bonne personne. Mais quelqu'un de moindrement brillant sait c'est quoi le contexte de l'époque.
Ah, puis pas juste ça, tu sais. Mettons, le nom de l'espèce a été donné souvent par la personne ou en l'honneur de la personne qui a découvert l'espèce. Point barre, là, que cette personne-là ait été une vidange dans un autre aspect de sa vie, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là?
Ah, mais t'étais pas une vidange quand tu possédais des esclaves dans ces années-là. T'étais vénéré, t'étais adoré du peuple. Je veux dire, ouais, c'est oui, ça aussi autres... la réalité. Il faut se remettre dans le temps. On n'a plus cette capacité-là de se remettre dans le temps. Écoute, là...
Oui,
on a
de la moralité rétrospective.
On n'a pas tout le temps accepté de lire l'heure du compte dans les salles de classe des enfants de deuxième année. Je suis désolé, ouais. Là, mais il y a déjà eu une autre époque où ça aurait été mal vu. Tu sais, oui, la société évolue, mais je veux dire, il faut arrêter de vomir sur le passé aussi. En tout cas.
Ben oui, c'est clair.
J'ai l'impression de dealer avec des double-digit IQ, mais qui se donnent un titre professionnel super élevé, puis à passer des universitaires ou n'importe quoi, mais à base, c'est du monde pas brillant. Là. Je veux dire, Christy, ben moi, savez-vous de ce qui vous sert entre les deux oreilles? Là, ton fameux pâteau au saumon que tu nous parles tout le temps, t'en sers-tu des fois, sacrément?
Mais en fait, moi, ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est que des idiots prônent ça à l'université ou dans des patentes d'inclusion, je sais pas trop quoi, c'est tel que tel. Mais qu'on, à tout bout de champ, on mobilise des ressources. Mais tu sais, je veux dire qu'à tout bout de champ, qu'on mette au cœur de l'actualité ou des événements qui se passent, des gens qui sont à la tête des organismes qu'en fait, ils devraient juste dire « Savez-vous quoi? Je m'en calisse. » Tu sais, c'est pas vous autres qui... Comme disait Lucien Bouchard dans son podcast avec Legault, « Ouais, mais dis-oh, je lui parlais quand j'avais de quoi dire. » Je le laissais me dicter mon agenda. Je n'essayais pas de faire des amis. Ben, c'est un peu la même affaire. La gang de crétins là, qui sont à la tête de plein, la société de transport de telle affaire, la ville de telle affaire. C'est tout le temps la même patente. Là. C'est un petit groupe qui arrive avec une commande. Vous pouvez prendre ça et mettre ça dans les poubelles.
Hey, ça a fait controverse. Quelle controverse, man! T'es le premier qu'on voit dans les nouvelles dans les 20 dernières années sur ce sujet-là. T'as la controverse facile, buddy. Là. En tout cas, hey, next, je suis plus capable. Là, je suis plus capable.
Mais tu t'imagines-tu être maire ou de quelque part ou d'un enfant dans le même? Quelqu'un t'arrive avec ça. Moi, je prends la demande, je fais merci, on s'en occupe, je prends ça, puis quand la personne sort, je la crisse dans la poubelle.
Le problème, c'est tu sais quoi, Frank? C'est que les maires, présentement, dans des organisations de milliers d'employés, on a vu, là, les médias en ont parlé hier avec Nicolas Gagnon. Depuis le début du règne à Valérie Plante, on est passé de 21 000 à, sais-tu, 28 000 employés? C'est une hausse de 21%.
Ouais.
Hey, 21% de plus d'employés à la ville de Montréal. On nous parle de pénurie. Puis on nous parle de pénurie de main-d'œuvre. Hey, vous êtes tombés sur la tête. Mais genre, ah ouais, il y a des employés de plus. Mais dans ces employés-là, plus qu'il y a, là, il y en a qui obtiennent des postes de direction intermédiaire, tout ça. L'agenda woke, ils l'ont, là. Fait que c'est de même que toutes ces petites affaires-là finissent par passer. Oui. C'est que là, les gens ont un petit mini-pouvoir à quelque part. Ils ont été formés dans une université où est-ce qu'on leur disait que c'était vraiment important, toutes ces cochonneries-là. Puis là, ils essayent d'appliquer ça dans la vie de tous les jours, dans leur job. Mais leur job a des impacts sur la vie de tous les citoyens. Ben puis oui, la réalité, c'est que ces gens-là, plus souvent qu'autrement, ils occupent pas une job. Ils occupent une bullshit job. On pourrait se passer d'eux. Parce qu'il y a, en 2015... On se passait d'eux. En 2015, ils sont pas ce qui n'existait pas. Hey, ben la ville de Montréal a tellement engagé. Je trouve ça hallucinant. On nous parle de déficit présentement. On nous parle de premières restrictions budgétaires. Christy, comment ça vous avez été capable d'engager du monde de même avant de commencer à avoir peut-être des difficultés financières? C'est parce que vous avez augmenté les taxes des citoyens comme des Christy débiles mentales?
Oh oui, mais c'est ça. Mais là, à un moment donné, l'heure de la reddition de compte arrive. Tu vois, on a un sondage un matin, tu m'enlignes sur Montréal, fait qu'on va passer là-dessus directement. Sondage léger qui est publié dans le Journal de Montréal. L'accès à l'habitation est la priorité nationale des électeurs. Et c'est drôle parce qu'on a fait un trio là-dessus la semaine passée qui vont être rendus publics dans trois semaines, à peu près deux, trois semaines. Et les gens, un peu intuitivement, font le lien que dont Vincent nous a parlé dans le... parce que, regarde, je vais passer ça, là, puis on y reviendra, là, mais regarde les deux premières priorités des gens qui vivent à Montréal. L'accès à l'habitation, l'aide aux personnes en situation d'itinérance. C'est les deux premières priorités. Fait que sans dire que tout le monde comprend qu'il y a un lien de cause à effet entre les deux, leur priorité se dirige vers là, pareil. Là.
Puis même, check, après, la lutte contre la violence armée au crime organisé, la fluidité des transports arrive en quatrième, puis la propreté de la ville en cinquième. Mais c'est pas de ça qu'elle nous parle, Valérie Plante.
Non, juste pour le dire, c'est ça, juste pour donner les résultats aux gens qui sont en audio. Première priorité des Montréalais avec 48%. Qui ont répondu ça, comme dans le fond, parce que là, tu fais une liste de priorités, tu coches, puis à quel temps mettre, tout ça. Donc, 48% l'accès à l'habitation, 35% l'aide aux personnes en situation d'itinérance, ensuite la lutte à la violence armée, la fluidité de la circulation, la propreté, le niveau des taxes municipales, la santé des finances de la ville. Après ça, à 16% arrive le premier truc de transport en commun, la prolongation du métro. Et si on descend, là, t'as les parcs, les trucs là, de quoi parle tout le temps la mairesse de Montréal?
Les hosties de pistes cyclables.
Les hosties de pistes cyclables et les rues piétonnes. Et l'aide aux les patentes de climat extrême. Climat extrême, 4%. Rues piétonnes, 5%. Et pistes cyclables, 5% des gens ont mis ça dans leur priorité.
Les trois sujets les moins importants, c'est de ça qu'elle parle tout le temps.
Tout le temps.
Sais-tu pourquoi? Parce que les autres sujets, là, elle ne sait pas quoi faire. Elle n'a aucune idée quoi faire. Elle est clueless.
Non, clueless, ben raide. Puis là, tu regardes son compte Twitter, c'est que genre, on va faire des maisons éponges, on va se transformer en éponge. C'est que des conneries de même. Mais là, voici ce qu'en pensent les gens de la mairesse Plante à Montréal. Là, c'est pas moi qui dis ça, là. C'est le sondage et les répondants qui ont été sondés. 25% des gens seulement souhaitent que la mairesse demeure en place. 55% des gens répondent qu'elle devrait sacrer son camp.
Hey, c'est pas un beau taux d'approbation, ça, là.
Quel est votre degré de satisfaction envers Valérie Plante? 49% d'insatisfaits. 29% disent satisfaits. 19% disent très satisfaits. Grosso modo, c'est 50-50 à peu près, là. Un petit peu plus d'insatisfaits que de satisfaits. Quand même, c'est quand même très mauvais, là, quand t'es mairesse d'une ville. Normalement, en général... En général, les gens qui sont maires quelque part au Québec sont là jusqu'à ce que mort s'en suive. Il y a des gens qui ont été maires. Émile Loranger était maire de l'ancienne Lorette combien de temps? Lui, genre 35 ans. Il y a des gens qui sont maires au Québec et des décennies. Là.
C'est trop peu de piton.
Fait que tu sais, c'est que de savoir que des gens, que des maires... Puis là, hier, on a parlé de Bruno Marchand qui a des chiffres encore pires qu'elle. Mais c'est ça la réalité. Et là, on nous dit...
Mais regarde ça comme faux. Là. Pourquoi elle a des mauvais chiffres? Est-ce que c'est parce qu'elle paraît mal? Non. Est-ce que c'est parce qu'elle s'exprime mal? Non. Est-ce que c'est parce qu'elle a commis une bourde majeure? La réponse est non. Elle a des mauvais chiffres tout simplement parce que les priorités qu'elle avance à chaque jour sur les réseaux sociaux pour se faire une belle jambe planétaire, écologiste, puis éventuellement peut-être avoir une chance d'avoir un poste à l'ONU, ne sont pas du tout les priorités des citoyens. Puis quand ça vient le temps de parler du vrai sujet, la priorité numéro un des citoyens, elle est clueless. Ce qu'elle devrait faire pour améliorer l'accessibilité au logement, c'est déréglementer. C'est d'arrêter de mettre un frein à des projets. L'IEDM l'avait dit, il y a plus de 25 000 unités d'habitation qui ont été freinées par la Ville de Montréal au fil du temps. Ça, c'est quoi? Est-ce que c'est Valérie Plante, en haut, elle-même, qui a freiné les projets? La réponse est non. Ça s'est fait dans ses activistes urbanistes qu'elle a comme employés. Okay? C'est là que ça gosse l'octroi de permis, trop lent. Ça se pogne le cul un peu. C'est cet étage que vous voulez faire. Ouais, c'est trop haut, là, ça prendrait 4 étages maximum. Alors faites vos plans, là, c'est pas correct. Ah, puis là, telle affaire, là, on est proche d'une couleuvre là, ici, là, c'est pas correct. Là. Tout le retard qu'on accumule, ça fait en sorte qu'il y a bien moins de projets qui se font. Puis ça, c'est les projets connus. Hein? La petite recherche de l'IEDM, là, c'est les projets qui sont connus, qui ont été retardés ou même annulés par la Ville de Montréal. La réalité, c'est la suivante aussi. Étant donné un contexte réglementaire difficile, il y a plein de gens qui ont de l'argent dans leur poche et qui n'ont pas comme idée d'investissement d'aller investir sur l'île de Montréal en créant des nouvelles unités d'habitation parce que la réglementation est trop lourde. Le pire dans tout ça, puis Vincent m'a quand même surpris dans le trio économique qu'on a fait vendredi passé, que nos abonnés Patreon ont déjà, là. Ce qui m'a surpris, c'est vraiment quand il me disait que jusqu'à 2006-2007, ça fait pas longtemps là, quand même, 2006-2007, Montréal était considéré comme une des villes canadiennes où est-ce que c'était le plus facile de construire. Pensez-y 2 secondes. Pourquoi la mer de pognée à Toronto puis Vancouver, bien avant Montréal, puis c'est tout arrivé de même. Il y a eu l'augmentation du prix des maisons, perte d'accessibilité pour la masse. Ensuite de ça, qu'est-ce qui arrive quelques années après? L'itinérance, quelques années après, le fentanyl, les drogues dures, les overdoses dans les rues. On a tout vu ça se dérouler à Vancouver, on a tout vu ça se dérouler à Toronto. Là, on commence à voir ça arriver à Ottawa, puis maintenant, on voit ça à Montréal également. Puis même, avec le reportage que Libre Média a fait, on commence à le voir éventuellement arriver à Québec, ce phénomène-là. Ouais. Mais Gélozo, il est très catégorique dans sa façon d'analyser ça. Jusqu'à 2006-2007, Montréal était une ville accueillante pour les propriétaires de logements, était une ville qui favorisait l'investissement au Canada, contrairement à Toronto et Vancouver. Mais on a fucké le chien.
Ah oui.
C'est qui a fucké le chien? Les environnementalistes, les activistes qui servent de fonctionnaires et éventuellement, en 2015, une mairesse activiste qui est arrivée à la tête de la ville.
Oui. Mais là, c'est comme si je pense que les gens, de plus en plus, on arrive au bout de cette, je pense, en tout cas, je l'espère, c'est peut-être un vœu pieux, mais je pense qu'on arrive à un genre de turning point où les gens sont en train de se rendre compte que élire des étudiants de sciences humaines première année comme maire et mairesse de leur ville et de leur village, c'est pas une bonne idée. Là, on est en train de l'expérimenter à Québec avec Bonneau Marchand. Là, les gens à Montréal commencent à en avoir plein le cas s'ils veulent qu'elle s'en aille. Ils ne demandent qu'à avoir quelqu'un de mieux pour qu'il la remplace. Il faut dire quand même que la dernière fois, il y avait le choix Antel puis Denis Coderre. C'est sûr que tu ne sais pas trop quoi faire, là. Mais Denis Coderre avec sa fixation sur la Formule 1 électrique. C'est un autre, puis c'est une génération de politiciens que les gens sont plus capables de voir aussi, là, ces espèces de bonhommes-là. Ils
sont pas mindés. Je veux dire, là, tu arrives dans un contexte, un turning point dans notre société où est-ce que les choses à faire sont les suivantes. Déréglementer, défaire ce qui a été fait dans le passé. On est rendu à ce point-là. Là. Il faut enlever des règlements municipaux contraignants. C'est ça qu'il faut arriver. Mais présentement, c'est pas sexy. Parce que même quand nous autres, on en parle, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont raccrocher le podcast, qui vont arriver dans les commentaires et qui vont dire, la première chose qu'ils vont dire, « Ouais, c'est quoi votre solution? » Chris vient te le dire, déréglementer. « Ah ouais, c'est quoi ta solution? Toi, qu'est-ce que tu ferais de plus? Qu'est-ce que tu construirais de nouveau? » Sacrément, j'ai pas dit de faire des nouvelles constructions. J'ai pas dit d'engager des nouvelles personnes. J'ai pas dit de faire un nouveau règlement. J'ai dit d'enlever des règlements. Mais c'est jamais considéré comme une option possible et c'est surtout jamais considéré comme une option bénéfique pour une ville ou une juridiction. Puis c'est ça qu'il va falloir qu'il change dans le psychique des Québécois à un moment donné. Là. On est dans une situation où est-ce qu'on est surréglementé, surtaxé et surinspecté également. Il va falloir se calmer les nerfs un peu. Puis c'est le même dans tout. C'est le même au niveau des municipalités. C'est le même au niveau du gouvernement provincial, évidemment au niveau du fédéral. Mais même, parle à n'importe quel professionnel, que ce soit un pharmacien, un médecin, que ce soit un avocat, que ce soit un comptable, que ce soit un conseiller financier. Parle à tous les professionnels comment que c'est rendu lourd la réglementation puis l'autoréglementation de leur industrie. Ils vont tous te dire la même affaire. On est rendu dans une situation où est-ce qu'on donne beaucoup trop de pouvoir à des gens qui ont le droit de vie ou de mort sur nos permis d'exercice. Puis, on est vraiment dans une situation qu'on est en train de focusser sur des mini-détails qui n'ont juste pas rapport. Puis, tu regardes les nouvelles réglementations qui rentrent, puis tu fais « tabarnache, vous êtes donc bien fatiguant, vous exagérez. » Puis, il n'y a personne qui se pose la fameuse question « On protège qui de quoi? » Puis à un moment donné, c'est là qu'il faut aller. On protège qui de quoi? Que vous soyez un élu provincial, un élu municipal, ou ben non, même un membre d'un comité qui s'occupe de réglementation des ordres des professionnels, là, on protège qui de quoi? Puis si t'es pas capable de répondre à cette question-là, ton esti de règlement, tu me crisses ça au vidange. Ça sert à rien. Puis il va falloir la faire, la révision des programmes passés aussi. La révision des anciens règlements, des anciennes lois qu'on a votées. On fait jamais le ménage dans nos cochonneries. Fait que ça donne des affaires que ça fait rien que grossir puis ça diminue jamais. Ouais. Mais à un moment donné, il faut que ça slack un peu. Là. Puis plus vous inventez des patentes, prends par exemple l'exemple de la fiscalité, plus tu rajoutes des crédits d'impôt puis des subventions puis des patentes, t'es dans une situation où tu crées plein de loopholes. Puis qu'est-ce que tu crées? Tu crées des gens qui ont maintenant comme tâche d'être des courtiers en subvention, d'être des courtiers en crédit d'impôt, puis qui vont s'organiser pour que tu obtiennes tout ce dont tu as droit, puis éventuellement recevoir une cote par rapport à ça. Il y a des gens qui font du 150-200 000 par année à conseiller des entreprises pour avoir leur subvention. Si ça, c'est pas des bullshit jobs, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Ça en est. C'est pas des affaires utiles.
Carrément. Mais tu sais, moi, il y a un des arguments que j'ai jamais trouvé que c'était un bon argument que les gens qui s'opposaient, mettons, à la CAQ sortaient souvent, puis tu vas comprendre le lien. Ah, ils gouvernent par sondage. Ben, Chris, si au moins ils gouvernaient par sondage, ça serait déjà peut-être pas pire. La mairesse de Montréal, si elle gouvernait par sondage, elle serait peut-être pas 50, plus de la moitié du monde qui veulent qu'elle s'en aille. Parce que le sondage, il est clair. La priorité des gens, c'est quoi? Le logement, l'état des finances de la ville, l'itinérance, la criminalité, la propreté. La propreté de leur crise de ville est plus importante pour eux que la planète, les trottoirs éponges, puis toute la patente. Mais comment ça se fait que comment ça se fait que systématiquement, on sonde les citoyens et sont toujours en porte-à-faux avec leurs élus? Toujours, sur tous les sujets. Les gens étaient pour GNL Québec, le gouvernement est contre. Les gens sont contre le tramway, le gouvernement est pour. Les gens sont pour le troisième lien, les élus sont contre.
Le privé en santé.
Le privé en santé, les gens sont majoritairement pour, les élus sont tous contre. Les gens étaient grosso modo 50-50 sur les affaires de registre des armes à feu, de peine de mort, d'avortement, tout ce que vous voulez. 100% des élus pensent la même affaire. Regarde, Montréal, c'est la même affaire, Québec, c'est la même affaire. Systématiquement, puis on est souvent dur,
les médias. Moi, je pense. C'est les médias.
Ben, je sais que c'est les médias, mais
les politiciens pensent que la population a le même ordre de priorité que les Christine médias traditionnels qui sont plus lus, qui sont plus écoutés, puis que plus personne croit. C'est quand est-ce que les politiciens vont se rendre compte à un moment donné que les médias traditionnels se sont déconnectés de la population? Puis par le fait même, en voulant plaire aux médias, ils se déconnectent eux aussi de la population. Valérie Plante, quand elle a fait ses niaiseries là, pour le climat, puis sauver l'Antarctique comme Bruno Marchand, puis let's go, je m'en vais à l'ONU, quand elle arrive dans ce système-là, elle réalise pas que oui, l'équivalent de Karine Gagnon à Montréal est peut-être bien contente, mais Ginette, là, dans Hochelaga-Maisonneuve, elle s'en sac de tes niaiseries. Tu sais, c'est reconnecter avec la population. Puis plus, le biais que le prof Caron avait fait par rapport à ça était tellement sacoche. Le fait qu'on a fusionné ces municipalités-là, qu'on a fait des méga-villes, il y a des villes... Tu sais, Valérie Plante gère probablement plus de citoyens que plusieurs premiers ministres de province au Canada, là. Pensez-y un peu, là.
Ben, la ville de Montréal, c'est plus gros que l'île du Prince-Édouard, puis c'est même presque plus gros que le Nouveau-Brunswick. Ben, en fait, c'est plus gros que le Nouveau-Brunswick.
Fait que,
c'est ça qui est épeurant là-dedans. Hein.
Ça leur donne des pouvoirs de premiers ministres provinciaux, cette affaire-là.
Absolument.
Puis, éventuellement, ils veulent toujours sortir de leur champ de compétences. Leur champ de compétences, c'est les égouts, les trottoirs, les rues, le déblayage, le déneigement. C'est ça leur champ de compétences d'abord prioritaire. La sécurité publique, éventuellement, à Montréal, évidemment, qu'il faut qu'on rajoute. Mais Christy, il parle jamais de ces affaires-là. Non. Il essaie de sauver la planète. C'est pas ton dossier. Ton dossier, c'est pas ça. OK, laisse ça au grand garçon. Là. On a Steven Guilbeault, c'est bien en masse. On n'a pas besoin de Valérie Plante pour ça. Là. On va s'arranger avec Steven. Lui, c'est une autre affaire. Mais arrête d'essayer d'augmenter ton pouvoir. Puis à toutes les fois qu'ils vont voir le provincial, puis dit « Hey, augmente mes taxes. » Ou « Donne-moi une possibilité de taxer quelque chose de plus. » Tu sais, Legault, il a quoi? Faire encore un point de TVQ récemment ou l'équivalent d'un point de TVQ?
Ouais.
Christy, arrêtez de lui donner plus d'argent. Arrêtez de lui donner plus de pouvoir. Ils gèrent tout croche ceux qui ont déjà dans leurs mains. Ils ne sont même pas capables de gérer leur société de transport qui ne soit pas déficitaire, sacrifice. Arrêtez, là. Arrêtez de lui envoyer de l'argent. Arrêtez de lui donner la permission de taxer plus les citoyens. Ils en ont assez d'argent.
C'est juste ouais, ben là, au moins, comment ça s'appelle, Guilbeault a sonné de glas un peu de cette affaire-là. Là. Finalement, je ne sais pas si tu as vu le... En tout cas, c'est sorti dans les dernières heures. Là, finalement, elle dit, regarde, l'offre qu'on vous a faite, c'est l'offre finale. Arrangez-vous avec vos cossins, là, nous autres.
Ben, c'est le même qu'il va falloir traiter les municipalités à un moment donné. Là. C'est genre, arrêtez de quémander, parce que ça, c'est l'autre affaire aussi. Ils ont tous les plus gros projets du monde, puis ils veulent dépenser de l'argent, mais la réalité, c'est qu'ils n'ont même pas l'odieux de la taxer. Ils veulent que quelqu'un d'autre taxe les citoyens de d'autres endroits
et ah, ben
dépenser cet argent-là.
Ça, regarde, ça, c'est une vieille idée de Jerry l'aubergiste, Jerry le boursicoteur, qui disait si on fonctionnait comme à l'époque des Romains, qu'il y a un gars sur un chariot avec des pièces d'or dans en arrière qui arrive en cheval chez vous, là, il cogne à la porte et il dit ouais, bonjour, oui, moi je suis percepteur d'impôts. On a décidé qu'on faisait un tramway chez vous, on a calculé c'est 3 000 $ par foyer, fait que tu me donnes 3 000 ou sinon je te donne un coup d'âge dans la jambe. Ou je t'amène en prison. C'était ça, là, quand aller collecter les villages gaulois, puis aller collecter les trucs avec le chariot. Non, c'est pas genre, on va t'échelonner ça sous 40 ans. C'est tu me donnes 3 000 ou je t'amène derrière les barreaux, puis tu vas aller te combattre avec les. Tu vas aller faire un combat de gladiateur dans l'arène. Les projets, ils seraient finis, ces projets de fou-là. Là. Mais là, les gens ont l'impression, beaucoup de gens ont l'impression qu'ils payent pas. Tu sais, 8,4 milliards abonnés au marchand, t'es comme, bah, ça sort d'où cet argent-là? Ça va être du clos, puis je suis plus trop où. Pis...
Ah oui.
Mais si je t'envoie un bill chez vous, là, ton opinion par rapport au projet de marde, elle change-tu ou elle change pas?
Moi, je pense change en change... sacrement.
Moi, je pense que le bill de 3 000 sur le coin de la table, il change pas mal.
Hey, tout le problème vient de là. Puis ça, c'est un déséquilibre fiscal qui part du fédéral. Le fédéral perçoit trop de taxes et d'impôts pour ses réels champs de compétences.
Absolument.
Ça l'amène les provinces à têter, puis éventuellement, ça l'amène les municipalités à têter aussi. Tout part de là.
Ben justement, regarde, parlons-en de ça. Peut-être comme dernier point, parce que c'est sorti ce matin dans le journal Le Soleil. Un sondage qui était commandé par le Soleil, non à un tramway à 8,4 milliards, oui à un référendum. Et là, le sondage a été fait là, dans les heures qui ont suivi l'annonce. Donc, on peut quand même penser que c'est pas tout le monde qui est au courant, là, vous aurez compris. Moi, j'en parlais encore en fin de semaine avec des gens, le monde ne savait pas trop. C'est pas tout le monde qui écoute les conférences de presse sur l'actualité. Là. En plus de devoir convaincre le gouvernement du Québec de sauter dans le train de son plan B, le maire Bruno Marchand devra aussi persuader les citoyens plus nombreux que jamais à rejeter la mouture à 8,4 milliards. Dans la capitale, une majorité va même jusqu'à réclamer un référendum, révèle le sondage Somme. Et là, je vais vous donner les chiffres. Le graphique est assez particulier, là. Êtes-vous favorable au projet de tramway de la Ville de Québec réalisé en partie à l'interne au coût de 8,4 milliards, blablabla? 49% des gens se disent très défavorables, 16% des gens plutôt défavorables, plutôt favorables à 14%, très favorables à 16%,
là,
et il y a un 5% d'indécis.
Il y a plusieurs choses à dire. Le 5% d'indécis parle beaucoup. Hein. Il est très faible.
Ah, c'est très faible, 5.
Ça veut dire que tu es vraiment dans une situation où est-ce que les gens ne changeront pas d'idée. Les gens ne changeront pas d'idée. Là, l'idée est faite, là, le débat il est fini. Là, à un référendum, là, tout le monde est prêt à voter. Là. T'auras beau faire campagne d'un bord comme de l'autre, c'est pas mal réglé. Deuxième chose qui est frappante là-dedans, le très défavorable, 16%. Ça, c'est potentiellement les utilisateurs.
C'est 49% le très défavorable.
Je voulais parler du très favorable.
OK.
Le 16% très favorable. Il y a juste eux autres qui vont l'utiliser. Le 14%, moi, je suis plutôt favorable. Hey, man, tu vas le prendre combien de fois dans l'année, le fucking tramway?
Ouais, c'est ça.
Tu vas aller faire un tour de machine la première fois, tu vas trouver ça cool, tu vas te prendre en selfie, tu vas avoir des likes sur ton post, puis c'est la dernière fois que tu vas le prendre. On sait ce que ça a fait avec le REM, là.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, fait que là, on est en train de dire là, qu'il y a une personne sur six dans la ville de Québec qui est réellement enthousiaste avec le projet.
Ouais.
Il y a une personne sur deux qui est en sacrament avec le projet, puis pas à peu près. Puis on le fait. Voyons, enlever ceux-là qui ont des opinions mitoyennes, là, 49 versus 16, c'est terminé, là.
Ben non, c'est ça.
Terminé. Non?
Et là, regarde, on a la réponse aussi à une question que bien des gens répondent. Souhaitez-vous un référendum sur le projet de tramway? 59%, donc 6 citoyens sur 10 répondent oui. 7% ne le savent pas trop et 34%. Ça, j'imagine c'est les gens qui sont comme dans le favorable et plutôt favorable. Eux autres, ils n'en veulent pas, ils savent que ça ne passera pas.
Mais c'est fou pareil, ces gens. Hey, moi, je suis très défavorable. Je sais, c'est pas juste que les gens sont très défavorables, c'est qu'en plus, ils savent que les gens autour d'eux le sont également. Ça veut dire que le citoyen, présentement, est persuadé que la grande majorité des habitants de la ville de Québec sont comme lui. Ils ne veulent pas le projet. Ah ouais, amène-le ton référendum, j'ai rien hâte d'aller le ramasser, ton projet. C'est vraiment là, un projet qui rend les gens borderline agressifs. Là. Parce que c'est vraiment une belle illustration de comment un politicien refuse d'écouter sa population. Puis ça, c'est frustrant pour les gens. Parce que Bono Marchand, là, ça fait pas longtemps qu'il est élu. Là. Ça fait à peine un an.
Ah, ça fait deux ans.
Deux ans, excuse. Ouais. Ça fait à peine deux ans. Ça n'a pas de bon sens.
Non, il est à mi-mandat, les gens veulent déjà qu'il parte.
Tu sais, je veux dire, il n'y a jamais eu une cote d'amour avec la ville. Il n'y a pas eu le temps de se construire une lune de miel à rien. Il ne
faut quand même pas oublier qu'il a été élu quasiment par un recomptage. Là.
En plus.
C'est ça aussi l'affaire. Là. Fait que tu sais, déjà à base. Puis,
dans un contexte que tout le monde proposait une bébelle, là. Tu sais, je veux dire, Québec 21, là, s'il ne propose pas le métro, moi, je pense qu'il gagne plus de votes
mais
que
c'est ça l'affaire aussi. C'est ça l'affaire. C'est que moi, je suis tanné de l'argument de genre, ouais, mais les gens, c'est comme. Parce que pour Montréal aussi, je reviens au sujet d'avant, c'est la même affaire. Ouais, mais les gens ont voté pour elle. Ouais, mais il y avait le choix entre elle et Denis Coderre, Ciboire. Tu sais, l'expression, tu as le choix entre la peste ou le choléra. Là, je veux dire, apprends bien, en politique, apprends bien sa signification. Là.
Regarde,
c'est un peu ça, là.
C'est pas juste nous autres qui est pogné avec ça. T'as eu Donald Trump versus Joe Biden à dernières élections aux États-Unis.
Ben oui, puis t'as eu Legault face à Dominique Anglade, puis GND. T'sais, c'est un peu ça, là. C'est que cette année, les gens sont comme fourrés avec des parce que, oubliez pas là, que la majorité des gens, là, la majorité des électeurs, c'est les en tout cas, au Québec, c'est ce que montrent les derniers... C'est le parti qui gagne, en fait, c'est l'abstention. Fait qu'il y a une vaste majorité de citoyens qui en ont... Ils se sentent pas représentés, ils en ont rien à foutre un peu parce qu'ils sont blasés.
Puis même à ça, c'est pas parce qu'il y a un taux de sinistre trop élevé. Parce que regarde, les Québécois veulent aimer. Là. Regarde qu'est-ce qui arrive avec PSPP. Il a l'air propre, il a l'air correct, il a pas fait trop de niaiseries encore. Fait que là, les gens sont prêts à l'aimer. Fait que naturellement, les gens, hey, là, enfin, on va peut-être avoir quelqu'un de cher. Puis tu sais, c'est pas un tata, là, PSPP. Fait que il y a peut-être une opportunité là. Fait que là, les gens sont prêts à se garrocher dans ses mains. Tu sais, tranquillement, pas vite, Éric Duhaime, avant la chute des affaires d'impôts, puis tout, là, il commençait à séduire du monde. Puis hop, finalement, hop, là, lui, on l'a flushé. Lui, on ne l'y largué à jamais. Mais regarde les Québécois avec Pierre Poilievre. Tranquillement, pas vite, les Québécois se font « Oh, on se fait cruiser. Ah, il est peut-être pas si pire qu'on dit. » Puis là, ils veulent aller vers lui. Les gens veulent aimer. Les gens sont pas cyniques, noirs. Là. C'est juste qu'à un moment donné, les gens de qualité, ils vont juste pas en politique.
Oh oui, c'est carrément ça.
Puis le citoyen, l'électeur doit avoir un examen de conscience aussi à faire. Quand quelqu'un vous dit qu'il n'y aura pas de nouveau projet, qu'il n'y aura pas de nouvelle loi, qu'il n'y aura pas de nouveau règlement, il va juste couper une indépense, il va licencier des gens, puis il va diminuer la réglementation. Là. Accordez de la valeur à quelqu'un qui vous dit ça. À un moment donné, quelqu'un qui se dit « Moi, je suis prêt à faire le ménage », puis éventuellement, il y a du monde qui vont perdre leur job, puis il y a du monde qui vont perdre leur chèque en faisant ce ménage-là. Accorder de la valeur à ça. C'est peut-être triste, c'est peut-être noir un peu, c'est peut-être pas sexy, c'est peut-être pas rêveur, mais là, on n'est pas en 1960. Là.
Ouais.
On est pas... Tu sais, je veux dire, quand Jean Lesage arrive à la province de Québec, il n'y a quasiment pas de dette, il y a une croissance économique qui va bien, puis tout est à construire, puis il veut tout construire de son côté. C'est facile de se mettre à rêver aux grands projets puis aux grandes affaires. Tu n'as pas de dette. Mais là, prenez votre calculatrice, regardez la dette du fédéral, regardez la dette du provincial, ouais. Regardez la dette des municipalités qui bouffent 20 % de leur budget en service de la dette, et ce chiffre-là va augmenter dans le futur. On n'a plus une scène. Parlez-moi pas de tramway, parlez-moi pas de troisième lien. Il se fera pas le troisième lien. Ouais, mais il est sur le bord de tomber. Ils n'ont plus une scène. Ils sont cassés comme des clous. C'est quand qu'ils vont s'en rendre compte, là?
Mais c'est parce que là, on est dans une position où, je sais pas si vous en rendez compte, là, puis on va passer à la partie Patreon après, là. Mais les politiciens sont debout sur une couverte, la couverte est à terre, et tout le monde tire dessus. Là, c'est dur de pas tomber, là. Vous essayerez ça chez vous. Mettez-vous debout à terre avec une couverte sur un plancher de bois, là, puis demandez à 4-5 personnes de tirer de chaque bord, voir ce qui va se passer. Méchant numéro d'équilibriste, là. Parce que là, t'as la fonction publique qui nous a toujours dit qu'eux autres, c'était pas important le salaire, c'était les conditions de travail. On vient de s'apercevoir que c'était pas mal de la bullshit, votre affaire. Hein? C'est pas mal le salaire qui est au centre de l'histoire. Ça, c'était mon petit message. Après ça, eux autres veulent du cash. Société de transport veulent du cash. Tout ce qui est organisme social là, qui fait de l'aide aux gens démunis, tout ça, veulent du cash. Tout le monde veut du cash. Les villes en veulent. Steve, ils veulent
plus.
Chris, ils veulent faire un pont-éponge, Il se prépare à Valérie Plante est sur le bord de construire son arche de Manon pour pour l'inondation biblique qui s'en regarde. Tout le monde est sauté sur le crâne, tout le monde veut du cash. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une mise à jour économique aujourd'hui, faite par, Rémi Girard.
Éric Girard.
Ça serait malade, ce soit Rémi Girard.
On n'aura pas de chèque de 500$.
Ben là, moi, je pense qu'il n'y aura pas de chèque. Et surtout, prédiction. D'après moi, on va apprendre là-dedans que finalement, les prévisions d'inflation, c'est très, très bas. Là, parce qu'on a une négociation à faire. Fait qu'arrêtez de nous en demander beaucoup. Nous autres, on prévoit que l'inflation, là, regarde, on est autour de 2,2. Ça va être un affaire de même pour les prochaines années. Ça, c'est les prédictions du budget. Et on va nous dire que là, la cagnotte est pas mal vide. C'est le temps plus des compressions. Ben oui, parce qu'il y a des négos à faire. Tout le monde veut du cash. Fait que tu penses que le gouvernement va arriver et nous présenter une mise à jour disant qu'ils sont en surplus?
Ben non. Non, puis, tu sais, le scénario économique de base du dernier budget, ça reposait sur pas de récession. Ça, ouais. Ils se sont pas trompés trop, là. Ça date, non, ça tient. Ce bout-là tient. La fin de l'inflation, celles-là, ils sont dans le champ. La fin des hausses de taux d'intérêt, ils ont été dans le champ sur celle-là. Puis l'acceptation telle quelle de l'offre faite par Sonia Lebel. Ça n'a pas bien été, hein?
Non.
Le scénario de base du budget, c'est pas réalisé.
Nope. Ça s'est pas réalisé. Écoutez, on va passer à la partie Patreon, encore quand même pas mal de sujets. Les pancartes du Bloc québécois sont encore en amour avec Justin Trudeau. Encore une fois, hier, les conservateurs déposaient une motion pour l'abolition de la taxe carbone. Les NPD ont voté en faveur. Les conservateurs, évidemment, qui ont déposé la motion, ont voté en faveur. Qui est venu sauver le cul de Justin Trudeau? Encore le Bloc québécois, qui est supposé d'être...
Ouais, mais ça touche pas les Québécois, ça, Frank. On s'en fout. Ouais, c'est ça. On s'en fout, ça touche pas les Québécois.
Fait que le gérant d'Éric Lapoune, lui, ça le dérange pas, ça. Avec les autres qui payent, nous autres, c'est après nous autres le déluge. Fait qu'il y a ça... Et on a aussi, hier, on avait dit qu'on le ferait jouer, on ne l'a pas fait jouer, on a manqué de temps, moi, de jouer, donc on fera jouer la nouvelle clip de Roxane la Banane et plein d'autres affaires encore.